Il est 15h, c'est place à Maintenant j'y vais, on n'attend plus que toi.
Si comme moi vous attendez ce moment toute la semaine, si dès que l'heure fatidique approche, vous augmentez le son, attachez vos ceintures, restez derrière vos postes de radio ou de vos smartphones, parce qu'il est prêt, il replace sa cravate, vérifie ses boutons de manchette, un dernier regard dans le miroir, le voici. Chaque mercredi après-midi, pendant une heure, découverte musicale et culturelle avec Julien. 15h-16h, Maintenant j'y vais sur Radio Plus.
Hello, salut, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour poursuivre ce mercredi après-midi sur Radio Plus, au son cette semaine de la musique classique. C'est en effet un rendez-vous que je suis ravi de vous proposer chaque année, celui qui nous fait partir à la découverte du programme de la saison de l'orchestre de Douai Région Hauts-de-France. Cette saison, évidemment, l'épidémie de coronavirus s'en mêle, alors comment construire une saison à l'aube du Covid? Quel a été l'impact de ces derniers sur la vie de l'orchestre et quels sont les projets à venir pour ce dernier? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque année, sa directrice, Emmanuelle Rasse. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur cette antenne. Alors, première question, en ces temps toujours très troubles, comment allez-vous et comment va l'orchestre?
Eh bien, écoutez, nous allons aussi bien que possible dans cette période effectivement tourmentée. Et nos musiciens n'ont qu'une hâte, évidemment, c'est de se retrouver, puisque depuis le 12 mars dernier, hélas, ils n'ont plus eu l'occasion d'être côte à côte. Et je crois qu'il y a, voilà, une frustration énorme, comme vous pouvez l'imaginer. Nous avons eu donc 19 concerts annulés. À la fois des concerts jeunes publics, des concerts découvertes, des concerts symphoniques, deux participations à deux festivals. Bon, voilà, donc c'est beaucoup de frustration et une grande envie, eh bien, de monter sur scène à nouveau.
Comment est-ce que justement les équipes, tant dans les bureaux au niveau administratif que du côté des musiciens, est-ce que vous avez vécu le confinement et tout ce qui en a suivi? On a vu pas mal de propositions musicales, ça et là, à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Comment l'orchestre de Douai a fait face à tout cela?
Eh bien donc, les musiciens spontanément ont souhaité enregistrer une vidéo qu'on appelait effectivement vidéo de confinement, puisque donc c'était au mois d'avril, ils étaient évidemment chacun chez eux. Et donc voilà, l'idée leur est venue, à laquelle évidemment j'ai souscrit immédiatement, de se réunir virtuellement. Ils ont tous enregistré séparément chez eux, sur des téléphones portables, alors parfois d'ailleurs avec de très bons portables, d'autres parfois un petit peu basiques, mais malgré tout, donc, ils ont tous fait cet effort, eh bien, de s'enregistrer avec le très beau thème de Danse avec les loups de John Barry. Et voilà, avec évidemment un travail après d'ingé son pour mixer la chose, eh bien, je crois qu'on a réussi à effectivement réaliser, eh bien, c'est une belle vidéo qui a eu beaucoup de succès, puisque nous avons eu plus de 32 000 vues, donc vraiment on était contents et on a eu surtout beaucoup de messages et bien d'encouragement qui nous ont évidemment beaucoup touchés.
Oui, on imagine effectivement que ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu aussi par un public qui, comme les musiciens, n'a pas pu se rendre dans les salles.
Et oui, et c'est vrai que notre dernier concert du bois d'avril, oui, je dis bien, avec un très beau programme que nous avions concocté, Franck Tchaïkovski, la grande symphonie en ré, et Tchaïkovski, le deuxième concerto pour piano, que tous nos auditeurs attendaient, la salle était quasiment comble, on a dû l'annuler évidemment, et nous avons eu 85% d'auditeurs qui n'ont pas demandé le remboursement de leurs billets. Et ça nous a fait évidemment très grand plaisir, outre l'aspect financier. Évidemment, outre cet aspect, ça nous a fait évidemment très grand plaisir et cela marque l'attachement de nos auditeurs. Voilà, et ça, c'est une chose qui n'a pas de prix.
Effectivement, le soutien aux salles de spectacle, le soutien aux musiciens qui passe aussi pour le public par le fait de ne pas solliciter le remboursement de son billet, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu effectivement suite à cette crise sanitaire. Et l'an dernier, justement, à ce même micro, vous évoquiez le fait que l'orchestre connaissait quelques turbulences dans son fonctionnement, en lien notamment avec des baisses de subventions. Ce danger s'est-il renforcé avec la crise sanitaire, Emmanuelle Rasse?
Alors, il ne s'est pas renforcé, puisque je touche du bois, j'espère que les subventions seront maintenues, mais bon, j'ai de bons échos, donc je suis un peu rassurée. Maintenant, il reste effectivement un problème de fond pour notre orchestre, dont le budget est beaucoup trop serré. Et donc là, nous alertons les différents financeurs depuis de nombreux mois, en espérant donc qu'ils nous écoutent pour nous permettre eh bien justement de diffuser davantage, d'accueillir de grands solistes, de pouvoir répéter aussi suffisamment et d'avoir des budgets de création, par exemple de création d'œuvres contemporaines. Et c'est vrai que c'est important. Des budgets d'enregistrement, cela fait partie de la vie d'un orchestre. Et nous avons beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de volonté, mais évidemment il nous faut des moyens accrus. Et pourtant nous sommes vraiment économes. Nous avons une toute petite équipe administrative. Les musiciens acceptent, je dirais, de travailler vraiment dans les conditions optimales. Mais tout cela a des limites, et c'est vrai que nous alertons beaucoup, voilà, sur la situation de l'orchestre.
Alors vous disiez il y a quelques instants, pas moins de 19 concerts annulés sur la précédente saison. Ça veut dire aussi 19 occasions de moins d'obtenir des rentrées d'argent, notamment grâce à la billetterie. Est-ce que justement vous avez pu bénéficier, en tant que lieu de création culturelle, en tant que lieu de diffusion, d'aide de la part de différents organismes susceptibles d'aider la culture ?
Oui, alors l'État, effectivement, qui d'habitude ne nous subventionne pas, hélas, eh bien l'État donc a effectivement débloqué des aides, ne serait-ce que par l'activité partielle dont nous avons pu bénéficier. Et bon, ça a été, disons, une chose importante.
Alors la saison de l'Orchestre de Douai, c'est une très bonne nouvelle, va démarrer, la saison 2020-2021, reprise prévue le 13 octobre. Comment est-ce que l'orchestre se sent à quelques jours de reprendre, puisque c'est la semaine prochaine, et quel est un petit peu le moral des troupes ?
Eh bien voilà, je vous parlais de cette frustration. Eh bien maintenant, c'est l'attente de remonter sur scène, de se retrouver. Et donc l'orchestre répète, pour tout vous dire, vendredi. Donc voilà, ils attendent tous. On a eu beaucoup de contacts, évidemment, ensemble. Et bon, je crois qu'ils ont vraiment hâte. Alors nous avons pris évidemment toutes les précautions nécessaires. Évidemment, distanciation. Les musiciens seront masqués durant les répétitions. Bon, ce qui n'est pas facile, comme vous pouvez l'imaginer. Mais bon, on prend évidemment le maximum de précautions, tant pour les musiciens que pour le public que nous allons accueillir, là aussi dans les meilleures conditions, avec distanciation, un fauteuil de chaque côté, libéré, masque, gel, etc. etc. Nous ne ferons pas d'entracte pour éviter évidemment le contact entre le public. Voilà, bon, j'espère que tout se passera bien. Nous prenons en tout cas toutes les dispositions pour.
Il y a en tout cas une situation sanitaire qui évolue, des concerts là dans des salles type Zénith qui sont d'ores et déjà reportés à longue échéance. Est-ce que vous-même, vous avez encore des incertitudes sur la saison qui va démarrer tout bientôt là ?
Oui, alors évidemment, nous avons donc, outre les concerts douaisiens, des concerts que nous diffusons en région Hauts-de-France. Et là, je fais face à des organisateurs qui sont forcément un peu frileux et qui m'ont demandé d'insérer une clause spécifique dans les contrats de cession pour pouvoir annuler, même dans un délai très très court, parce que, bah, évidemment, ils craignent un aggravement de la situation. Bon, voilà, donc on devrait jouer, mais jusqu'au dernier moment, on n'est pas sûr. Et c'est vrai que ça n'est pas facile de travailler dans ces conditions. Et nous avons dû, hélas, donc reporter toute notre programmation jeune public, qui pourtant est une activité importante pour nous, parce qu'évidemment, il n'était plus possible de réunir 1000 enfants sur une matinée comme on le faisait habituellement. Donc là, hélas, voilà, nous sommes contraints de reporter, mais nous avons une idée pour pallier justement cela, à savoir d'enregistrer des vidéos pédagogiques qui nous permettraient de ne pas rompre ce lien fort que nous avons avec les différentes écoles.
Et ça, c'est une idée intéressante, parce que au-delà effectivement de l'impossibilité de réunir tous ces enfants, je crois d'ailleurs que pour l'instant vous les reportez jusqu'à la fin de l'année civile, ces concerts jeunes publics. Il y a quand même ce besoin pour les plus jeunes de découvrir aussi la musique classique. Est-ce que finalement c'est quelque chose auquel vous pensiez déjà, ou c'est quelque chose qui est venu par la force des choses avec cette crise sanitaire, que de s'attaquer à de nouveaux supports, de nouveaux moyens de diffusion?
C'est vrai que c'est la crise qui nous a fait évoluer. Nous n'avions pas imaginé effectivement ces vidéos pédagogiques avant. Alors c'est le bon côté de cette crise abominable. C'est vrai que cela donne d'autres pistes, effectivement. Mais ça ne remplacera jamais le spectacle vivant. c'est bien conçu comme un complément, parce que le spectacle vivant est irremplaçable. C'est le contact direct, c'est le spectacle, c'est le contact, c'est l'instant vécu de partage entre l'artiste et le public, et ça, c'est vraiment irremplaçable. Donc, ça n'est pas quelque chose de substitution, c'est vraiment en plus.
Et c'est aussi à cet âge-là, les yeux des enfants qui brillent, peut-être, quand ils voient l'orchestre s'animer.
Bien sûr, et c'est l'ambiance aussi dans une salle, parce qu'il est évident que, voilà, on se laisse emporter aussi dans un cadre qui est un cadre spécifique, avec des conditions acoustiques, dans une ambiance qui fait partie du charme, effectivement, du concert.
15h12 sur Radio Plus. Notre invité ce mercredi, Emmanuelle Rasse, directrice de l'orchestre de Douai, région Hauts-de-France.
C'est maintenant j'y vais avec Julien jusqu'à 16h.
La saison de l'orchestre de Douai, région Hauts-de-France, qui va donc reprendre de manière imminente, puisque la reprise est prévue le 13 octobre, avec une thématique qui, moi, m'a interpellé. C'est vrai que je me positionne toujours en profane lorsque je vous reçois, Emmanuelle Rasse, en profane de la musique classique. Et il y a cette thématique qui s'appelle la guitare de l'Espagne à la Suisse. Alors déjà, la guitare, ça n'est pas forcément le premier instrument auquel on pense lorsque l'on pense à la musique classique. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu face à cet intitulé de programme. Autant l'Espagne, effectivement, avec ses différents styles de jeu, comme par exemple le flamenco, semble un pays de guitare, autant la Suisse, ça m'a vraiment interpellé. Alors, parlez-nous du choix de ce programme et des choix faits autour de ce programme.
Alors, la saison a une thématique de filiation. Ça, je le repose dans le contexte. Et on a joué sur ce terme, justement, de filiation artistique, de filiation génétique. Et donc là, ce premier programme, Wismer-Rodrigo, s'est centré autour de la guitare. Et nous avions eu, en fait, une opportunité avec un contact avec l'action musicale Pierre Wismer, qui nous proposait d'enregistrer donc une partie de l'œuvre de son compositeur suisse du début XXe siècle, un peu méconnu. Il est plus connu pour son activité pédagogique et moins connu pour son activité de compositeur. Et pourtant, il a écrit vraiment de très très belles choses. Et donc voilà, on a eu cette opportunité d'enregistrer notamment le concerto de guitare. Du coup, on s'est amusé à associer la guitare du compositeur suisse Pierre Wismer, qui sans doute a dû être influencé quelque part par le fameux concerto d'Aranjuez, très très connu, qui est évidemment une pièce vraiment maîtresse de l'œuvre pour guitare. Bon voilà, donc c'est cette association que nous avons voulu mettre en place.
Donc la guitare a aussi sa place dans les auditoriums, pardon, de musique classique.
Mais oui, tout à fait. Alors encore faut-il que le compositeur sache écrire, parce qu'il est vrai que ça n'est pas un instrument qui a une puissance de son telle qu'il puisse effectivement passer au-dessus d'une formation orchestrale. Et là, c'est toute la gageure que de savoir composer, donc orchestrer pour cet instrument soliste sans le couvrir. Et donc là, c'est effectivement une particularité. C'est vrai que peu de compositeurs se sont frottés à ce genre d'exercice parce que ça n'est pas simple. Mais c'est vrai que le mariage et le concerto d'Aranjuez, là, de Rodrigo, est vraiment, c'est une pépite.
Eh bien justement, on va en écouter un court extrait de ce concerto de Aranjuez à la guitare, donc.
Thank you.
Un extrait du concerto de Aaron Wess où quand la guitare se marie plus que jamais bien avec un orchestre symphonique. Voilà ce que l'on va pouvoir retrouver effectivement à l'occasion de l'ouverture de saison de l'orchestre de Douai, région Hauts-de-France.
Maintenant j'y vais avec Julien.
Let's go. Et nous parlons en effet de la saison de l'orchestre de Douai, puisque Emmanuelle Rasse, sa directrice, est notre invitée. On a parlé effectivement en première partie d'interview des conséquences de la crise sanitaire, des conséquences tant sur le travail des musiciens que sur l'impact sur l'orchestre. Mais là, la saison va bel et bien reprendre le 13 octobre prochain, avec donc ce programme qui s'appelle « La guitare de l'Espagne ». À la Suisse et il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué dans notre petit échange autour du Covid. Vous avez dû, j'imagine, restreindre la jauge de l'auditorium.
Bien sûr, tout à fait. Avec cette distanciation, on est forcément à une demi-salle, forcément. Ouais, oui, hélas.
Donc demi-salle et plus que jamais réservation obligatoire. On imagine qu'il ne sera pas forcément possible de prendre sa place directement le jour du concert ?
Si, je pense quand même, néanmoins, nous invalidons évidemment les fauteuils qui ne peuvent pas être vendus de par les auditeurs qui ont déjà réservé, mais je pense qu'il restera quand même quelques fauteuils. Donc, si, essayez.
Il faut toujours essayer, effectivement, parce que ça peut être l'occasion de vivre un très très bon moment de musique autour
d'autant que nous accueillons donc Thibaut Covin, guitariste exceptionnel qui parcourt la planète et qui a le record, je crois que je n'ai jamais vu ça, 13 premiers prix de concours internationaux. Donc vous imaginez le niveau, c'est absolument époustouflant.
Oui, sacré niveau, effectivement. Alors, on parle justement de Thibaut Covin qui se déplace partout dans le monde. On sait que partout dans le monde, le Covid fait qu'il y a des restrictions de déplacement, de voyage. Est-ce que ça a impacté la programmation et la construction de la programmation de la saison 2020-2021?
Alors, eh bien, écoutez, pour l'instant, non. Fort heureusement, Thibaut Covin est en France. Je sais qu'il jouait il y a quelques jours à Montpellier. Donc, je pense qu'il devrait arriver sans trop de problèmes à Douai en fin de semaine. Donc là, bon, normalement, je n'ai pas d'inquiétude. Et pour les autres solistes chefs, bon, écoutez, on croise les doigts chaque jour pour qu'il n'y ait pas de nouvelles mesures qui, effectivement, les empêchent. Alors, je sais qu'ils font beaucoup de tests Covid, qu'ils prennent évidemment toutes les précautions nécessaires. Et bon, là, je dirais que nous prions Sainte-Cécile, voilà, chaque jour.
Sainte patronne des musiciens, bien effectivement, sûr. Et nous croisons, évidemment, tous les doigts pour que ce concert et ces concerts et cette saison puissent se dérouler au mieux dans des conditions que l'on connaît, qui sont déjà malheureusement parfois bien difficiles. Autre rendez-vous à ne pas louper, et quand je dis à ne pas louper, c'est pour plein de raisons, notamment parce que c'est un anniversaire marquant, 250e anniversaire de naissance, ce sera le deuxième programme de la saison également, et puis parce que va être joué un programme culte, c'est un programme consacré à Beethoven à l'occasion de son 250e anniversaire de naissance, et on va y retrouver notamment la symphonie numéro 3 en si bémol majeur, dont on dit elle a consacré la réputation de génie de Beethoven. Pourquoi, Emmanuel Rasse ?
Eh bien, parce que je pense que Beethoven a vraiment excellé dans la composition de ses 9 symphonies. C'est vrai que c'est un genre, bon, il a écrit pour différentes formes, évidemment, très très peu d'opéra, puisqu'il a écrit seulement Fidelio, mais il a écrit beaucoup de musique de chambre, évidemment, de pièces pour piano seul. Mais je crois que c'est dans le genre de la symphonie qu'il a vraiment excellé et qu'il a révélé tout son potentiel, parce que c'était un orchestrateur hors pair et que cette dimension d'œuvre, puisque là, il s'agit évidemment de tous les pupitres symphoniques, donc l'orchestre est forcément très très fourni et c'est là que vraiment il a excellé. Et cette symphonie dite symphonie héroïque qu'il a donc baptisée en pensant évidemment à Napoléon a vraiment, je dirais, une place primordiale dans sa production.
250e anniversaire de sa naissance, un compositeur toujours extrêmement marquant pour tous les mélomanes. Qu'est-ce que vous, en tant que directrice de l'orchestre, vous retiendrez de l'œuvre de Beethoven? Si vous deviez isoler quelque chose de son œuvre.
Alors moi, je crois que ce serait la 7e symphonie. J'avoue que j'ai un faible. Bon, elles sont toutes très très belles et d'une dimension absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai un faible pour la 7e symphonie et notamment pour l'Andante, qui est absolument déchirant. Et c'est vrai que c'était un homme passionné qui devait avoir, je dirais, une vision de la vie torturée. Et voilà, on ne peut pas rester insensible à ce qu'il transmet dans sa musique et dans sa musique, effectivement, de douleur. Et bon, avec, bon, certes, quelques passages joyeux, ça n'est pas qu'une musique sombre, mais on sent quand même ce qui le tiraillait. Bon, évidemment, sa maladie qui a dû peser fortement. Et bon, cette passion, parce qu'il est, bon, c'est un homme qui devait vivre à 300%. Et donc, cette passion, son tourment, bon, on ne peut pas rester insensible.
Et ce concert, il est marquant aussi parce que ça va être le premier de la saison où l'orchestre va sortir de ses murs, puisque vous irez le jouer aussi, si tout va bien, à Biaschinva.
Oui, tout à fait, même à Croix et à Aniche. Depuis, j'ai eu donc quelques communes qui ont souhaité reprendre effectivement l'activité culturelle. Alors là aussi, c'est sous toute réserve, bien sûr. Mais normalement, donc, nous devrions faire 4 concerts, ce qui est évidemment très très bien en cette période troublée. Et nous retrouvons notre chef principal, Jean-Jacques Kantorov, avec évidemment beaucoup de joie et d'impatience.
Et parlez-nous de l'autre œuvre qui sera jouée lors de ce programme, une œuvre de Mendelssohn.
Oui, voilà, c'est le très très beau concerto en mi, qui est le plus joué, le concerto de violon le plus joué de Mendelssohn, qui est absolument absolument joli, il est, comment dire, il est limpide. Mendelssohn a cette facilité d'écriture, de légèreté, de fluidité, un petit peu dans l'esprit de Mozart, mais plus romantique, évidemment. Et voilà, c'est vraiment que du plaisir, un plaisir cristallin, je dirais.
Mais là, ce n'est pas Mendelssohn que l'on va écouter, mais bel et bien Beethoven avec sa symphonie numéro 3, un extrait évidemment. Et on se retrouve juste après avec l'agenda. Alors maintenant, j'y vais. Un extrait de la symphonie numéro 3 de Beethoven et un programme qui sera joué du côté de l'orchestre de Douai du 6 au 8 novembre avec eh bien pas moins de 4 concerts confirmés, même si pour l'instant sur le site de l'orchestre qui vous permet de réserver vos places, il n'y a que 2 dates d'indiquer, mais il y aura bel et bien 4 dates et la mise à jour va être faite très très rapidement. Et puis on le disait, il y aura aussi effectivement ce concerto pour violon de Mendelssohn, et pour jouer un concerto pour violon il faut un violoniste, et il y a un violoniste émérite qui va venir se produire, Emmanuel Rass, il s'agit de Gauthier Dogge.
Voilà, Gauthier Dogge, notre violon solo qui est parmi nous depuis maintenant je crois 15 ans et qui voilà, qui est un personnage central de l'orchestre et que nous allons mettre en valeur avec avec grande impatience. Voilà.
15h28, on est quasiment déjà à la moitié de cette émission. Ça veut dire aussi qu'on retrouve l'agenda, car on a beaucoup de chance. Des concerts commencent à revenir et on a quelques dates à vous communiquer. C'est justement l'agenda de Maintenant J'y vais que l'on va retrouver tout de suite.
Laissez-vous guider, Julien s'occupe de tout. Maintenant J'y vais, l'agenda.
Un agenda qui reste tout de même très court et qui parle à la fois de dates de concerts et de clips qui sortent. Le clip, c'est le nouveau clip de Rodrigue que l'on avait reçu pour parler de son album A Fuck Tout, A Love Tout. Le clip est sorti le 2 octobre dernier. C'est sur la très jolie chanson Atteinte à l'intégrité d'un cadavre. D'ailleurs, ce titre pas très joyeux, c'est l'histoire d'un homme qui se remémore son amour perdu dans un monde pas toujours rose. Un très très joli clip auto-réalisé par Rodrigue a retrouvé sur sa chaîne YouTube. Les concerts debout au Métaphone ne sont toujours pas autorisés pour le moment. Et bien qu'à cela ne tienne, l'équipe du Métaphone s'adapte et vous donne rendez-vous le vendredi 9 octobre pour un double concert avec le collectif Bruit Blanc. Les artistes régionaux émergents seront mis en lumière. Il y aura Yolande Bashing, c'est de la chanson électro, et mardi midi, c'est de la techno No Wave. C'est gratuit sur inscription obligatoire, direction le site internet 9-9bis.com, rubrique agenda pour obtenir votre précieux sésame. C'est l'occasion de vivre un concert unique dans un lieu unique qui est la salle des douches. Ouverture des portes à 19h30. Début du concert à 20h30. Et puis le duo pop Lillois Esplanades annonce un concert à Bruay vendredi 13 novembre à 20h à l'espace culturel Grosmy autour de leur EP sorti le 18 septembre dernier, Farewell au Scope. Et d'ailleurs Esplanades seront mes invités la semaine prochaine. On parlera notamment de petits changements autour du groupe et de cette EP qui vient tout juste de sortir. Les infos et les réservations pour ce concert à l'espace culturel Grosmy, c'est au 03 59 41 34 00 0359 41 34 00. Concert assis dans le respect des gestes barrières avec notamment le port du masque obligatoire. Et puis n'oubliez pas non plus la semaine prochaine le lancement de la saison de l'orchestre de Douai région Hauts-de-France avec un concert symphonique intitulé La guitare de l'Espagne à la Suisse. On en parle, on en a parlé il y a quelques instants et on parle de la saison 2020-2021 avec Emmanuelle Rass, directrice de l'orchestre de Douai région Hauts-de-France.
15h, 16h, maintenant j'y vais avec Julien. Let's go!
Et on continue bien sûr de balayer ce programme et ça va swinguer à Douai autour de l'œuvre de Michel Warlop.
Oui, alors, autre événement autour de la filiation, Michel Warlop, évidemment, jeune violoniste douaisien, qui donc, fut une étoile filante, formation classique, il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, très jeune, il en sort couronné des premiers prix, et puis il rencontre le jazz, et là, ça va être évidemment le coup de cœur, et il va vraiment s'orienter et faire naître ce qu'on appelle maintenant le violon jazz. C'est bien le premier. Alors il rencontre évidemment Django Reinhardt, à sa suite donc Grappelli, et voilà, et il va s'exprimer, il va changer d'orientation, et malheureusement donc il aura une carrière très très courte puisqu'il décède je crois à 38 ans, mais bon, il aura vraiment initié ce nouveau violon et créé donc le Hot Club de France. dans les années 30 avec un style qui lui est vraiment tout à fait propre. Et nous avons donc pour l'occasion, eh bien, invité un quartet jazz, donc, qui s'est spécialisé lui aussi dans ce type de répertoire, qui va donc jouer en première partie et à la suite, nous proposerons donc Michel Varlop en formation à la fois donc quatuor jazz plus orchestre, puisque Michel Varlop a écrit donc notamment un nuage pour swing quartet et orchestre et son célèbre swing concerto, donc qui seront interprétés à la fois donc par ce quatuor jazz et l'orchestre qui accompagnera derrière. Voilà, donc c'est une plongée dans les années 30. Nous avions déjà interprété Varlop, mais jamais dans cette configuration de swing quartet plus orchestre. Alors nous avons à la direction d'orchestre un jeune Manuel Doutrelan qui est violoniste et qui orchestre et qui lui donc va nous proposer, alors dans le cadre justement de cette filiation, des pièces de Victor Gallois qui fut le directeur du conservatoire et dans les années donc de début de siècle et qui a eu comme élève Michel Varlop, et c'est un hommage donc à son professeur. D'ailleurs, le conservatoire de Douai porte le nom de Victor Gallois. Et ensuite, nous aurons donc des œuvres de Jacques Ibert. Jacques Ibert, qui est un compositeur français, lui aussi début 20e, qui aimait beaucoup justement le jazz et qui a écrit dans ce style donc un divertissement, entre autres, qui viendra très très bien compléter ce programme. Donc voilà, c'est une échappée dans un autre monde. Et bon, c'est bien, je crois, de proposer et de montrer que la musique classique n'est pas fermée dans des styles à tout jamais, mais qu'elle peut au contraire côtoyer et s'enrichir de d'autres styles.
C'était important, ça, justement, aussi, peut-être pour proposer autre chose au public, de montrer cette ouverture d'esprit.
Bien sûr, tout à fait, parce qu'on nous reproche trop d'être justement dans certains clivages, d'être enfermé, d'être sombre, parce que les musiciens sont parfois habillés effectivement noirs. Donc, bon, je pense qu'il faut au contraire essayer d'ouvrir et d'amener une autre vision de la musique classique qui n'est pas forcément une musique sérieuse, mais qui peut au contraire swinguer et bon, y apporter beaucoup de bonheur et de joie. Donc, je crois que c'est bien de temps en temps, eh bien, d'imaginer une programmation qui sort un peu de nos sentiers battus.
Et on a besoin de joie, justement, effectivement, en ce moment. Donc, on ne va pas s'en plaindre et on va donner rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent à l'occasion de ce concert symphonique qui sera joué le 13 décembre du côté de l'auditorium de Douai, l'auditorium Henri Dutilleux. Peut-être d'autres dates qui sont en cours de négociation?
En cours de négociation, oui, j'espère, mais je n'ai pas encore de contrat signé, donc je ne peux pas les indiquer. Je peux seulement ajouter qu'il y aura donc une conférence sur le jazz de ces années 30, faite justement par le violoniste Guillaume Antonini et Emmanuel Doutrelan, qui parleront justement de cette naissance de ce nouveau style qui émergea dans ces années. Et nous proposons également une journée culturelle avec l'Office de tourisme qui la propose, une visite Art déco le matin, évidemment, pour caler dans ces années 30. Donc, pour ceux qui le souhaiteraient, il y a cette possibilité de journée culturelle qui comprend à la fois la visite patrimoine le matin, un déjeuner dans une bonne table douaisienne, la conférence et le concert. Donc là, vraiment, c'est une journée intense.
Planning chargé, oui. Effectivement. Alors, on l'a dit, le fil conducteur de cette saison 2020-2021, c'est la filiation. Et justement, il y a un programme qui s'appelle bel et bien une histoire de famille, mais pour autant, ça n'est pas une histoire de famille par le sang. Là, pour le coup, du moins, pas de manière aussi franche que ce que l'on aura l'occasion de voir d'ici la fin de l'émission. Mais il y a tout de même une sacrée filiation dans tout ce que vous proposez.
Oui, tout à fait. Alors là, à la fois, je dirais une filiation de compositeurs, puisqu'on a un programme effectivement au mois de janvier autour de Haydn, Mozart, Schubert. Et c'est vrai que bon, Haydn est le père, lui, je parlais des grandes symphonies de Beethoven. Il n'y aurait pas eu de grandes symphonies de Beethoven s'il n'y avait pas eu Haydn, qui est vraiment le premier, quelques années avant évidemment, à avoir instauré ce cadre de la symphonie. Et il en a écrit d'ailleurs un nombre absolument incalculable. C'est lui qui a, je dirais, le record du nombre dans cette matière. Et donc, c'est lui qui est vraiment le pilier de la symphonie et qui a évidemment influencé ensuite tous les courants, dont effectivement Mozart, qui se réclamait de Haydn, parce que pour lui, c'était l'exemple même, c'était le père. Et Mozart lui-même a influencé Schubert, évidemment. Donc voilà, on parle bien de cette filiation de compositeurs.
Et puis il y a une filiation familiale aussi, et c'est là où je voulais me corriger, parce que c'est vrai que c'est, je le savais sur le programme d'après qu'on évoquera, mais j'avais oublié cet aspect de filiation familiale parmi les musiciens qui vont interpréter ces œuvres.
Voilà, tout à fait. Le chef d'orchestre sera donc Ralph Sighetti, qui est altiste et qui jouera d'ailleurs lui-même et qui dirigera, ce qui est déjà un exercice qui n'est pas simple. Et enfin, donc, il accompagnera, il jouera avec sa propre sœur, donc qui est Vanessa Sighetti, qui est violoniste. Voilà, donc on a trouvé effectivement que c'était tout à fait bienvenu dans ce cadre de les programmer ensemble. J'oubliais une filiation et je vais quand même faire un tout petit retour très très rapidement. Quand je parlais de Mendelssohn, Beethoven, Gauthier d'Auge, notre violon solo, la filiation là, elle était la filiation de maître-élève, puisque notre violon solo a lui-même été élève de Jean-Jacques Kantorov qui le dirigera. Donc vous voyez, le fil conducteur est vraiment permanent.
Effectivement, un fil conducteur permanent. Alors, la semaine dernière, j'ai lancé une nouvelle rubrique dans cette émission qu'on pourrait appeler en quelque sorte la question du futur. Je me suis demandé à quel moment j'allais pouvoir lancer cette rubrique dans cette émission, mais je crois que le moment est tout trouvé. Vous allez comprendre pourquoi. La semaine dernière, en effet, je recevais Ségolène, duo de la région, composé d'une harpiste et d'un accordéoniste. Et c'est Ségolène, justement, qui vous pose une question, Emmanuel Rasse, à laquelle je suis convaincu qu'on trouvera une partie de la réponse dans ce qui va suivre du côté de la programmation.
Alors bonjour Emmanuel, de quelle façon mettrez-vous la harpe en valeur cette année à l'orchestre de Douai ?
Ah, alors effectivement, là je suis dans mon domaine là de prédilection, puisque j'avouerai que je suis moi-même harpiste. Donc bien sûr, c'est un instrument que je chéris particulièrement, et c'est vrai que nous avons donc imaginé un programme au mois d'avril. Alors toujours dans notre thématique filiation de mère en fille, et qui mettra effectivement la harpe à l'honneur, puisque nous aurons le très très joli concerto de Boieldieu, François-Adrien Boieldieu, qui a composé un concerto romantique absolument ravissant. Voilà, et donc là, nous pourrons toutes deux notamment donc apprécier particulièrement cette programmation.
Ça, ce sera au mois d'avril, effectivement, et d'ailleurs, c'est ce qui va clôturer la saison, si je ne dis pas de bêtises, entre le 10 et le 16 avril prochain. Entre deux, il y aura un concert et un programme consacré aux Russes.
Oui, les Russes et les Russes. Alors là, décliné sous deux angles. Les Russes, puisque ce sera un programme autour de Prokofiev et Tchaïkovski, qui sont évidemment deux très grands représentants russes de la musique classique. Et deux Russes, puisque nous aurons donc père et fils, toujours cette filiation, avec les deux Kantorov, donc Jean-Jacques à la direction, et le fabuleux, extraordinaire, absolument irremplaçable Alexandre, qui fait maintenant une carrière absolument éblouissante, que nous avions déjà accompagnée, et je veux le souligner, nous étions une des premières formations orchestrales à l'avoir accompagné quand il avait 17 ans. Déjà, c'était absolument extraordinaire. Mais alors maintenant, auréolé de ces deux prix au plus grand concours international de piano, concours Tchaïkovski, maintenant, voilà, il est déjà propulsé dans les sphères supérieures. Et donc, nous le retrouverons donc pour la quatrième fois dans un concerto de Prokofiev. Et tous deux sont d'origine russe. Évidemment, le nom de Kantorov parle. Voilà. Donc, c'est déjà, nous savourons déjà quelques mois à l'avance cette très grande chance, parce que c'est vraiment un privilège de pouvoir l'accueillir encore. Et je crois qu'après, il sera vraiment intouchable. Donc, nous savourons à l'avance ce très grand moment.
Oui, car si ma mémoire est bonne, déjà l'an dernier, vous m'expliquiez qu'il était très très difficile de l'avoir, et là et vous avez la chance de l'avoir cette année.
Tout à fait.
Et dans un contexte aussi particulier qui va faire du bien aussi à tous ceux qui apprécient la musique classique.
Bien sûr, et c'est vrai qu'il est propulsé maintenant sur les très très grandes scènes internationales. Donc c'est une immense chance, un immense privilège que nous aurons. Il vient de sortir un disque absolument merveilleux autour de Saint-Saëns, Liszt, avec des rhapsodies extraordinaires. Il a un jeu qui est qui est indescriptible. Il vous emmène dans un monde intérieur. C'est dès la première note, vous êtes ailleurs. Et outre un pianiste, c'est un interprète et je dirais qu'il recrée à chaque concert une interprétation différente et qui de par son excellence vous semble la seule possible, tellement c'est convaincant et c'est absolument extraordinaire.
Alors on va faire une nouvelle pause, la dernière de cette émission a priori, nouvelle pause musicale. Ce n'est pas Prokofiev ni un programme russe que l'on va écouter, mais c'est bel et bien Boieldieu avec la harpe à l'honneur qui sera donc à l'honneur aussi à l'orchestre de Douai dans le cadre du programme qui sera en clôture de la saison. On écoute donc cet extrait de Boieldieu. Un extrait d'un concerto pour harpe de Boieldieu que vous pourrez apprécier à l'occasion du programme qui mettra la harpe à l'honneur du côté de l'orchestre de Douai Région Hauts-de-France, programme qui clôturera la saison 2020-2021, concert symphonique de mère en fille qui aura lieu du 10 au 16 avril. On est toujours en compagnie d'Emmanuel Rass à l'occasion de la présentation de saison de l'orchestre de Douai Région Hauts-de-France. On vient d'en dérouler le programme. Vous avez pu entendre tout à l'heure la question de Ségolène qui vous était adressée la semaine prochaine. C'est votre question, Emmanuel Rass, que l'on entendra et vous la posez au groupe Esplanades qui sera mon invité mercredi prochain.
Oui, alors je vais, puisque j'ai commencé cette émission en parlant de guitare, voilà, je suis curieuse de savoir quel a été le parcours de ce guitariste. Comment a-t-il abordé? Est-il autodidacte? A-t-il eu une formation d'abord classique et ensuite donc un choix, une orientation différente? Voilà, c'est une question que je me suis souvent posée pour ce type de groupe. Voilà, quels sont leurs parcours, leurs formations, voilà, comment a-t-il eu ce déclic pour la guitare et comment a-t-il évolué pour proposer maintenant effectivement ce type de prestation.
La question est donc posée et on aura la réponse mercredi prochain entre 15h et 16h dans Maintenant j'y vais. Question qu'on retrouvera d'ailleurs, j'ai pas encore travaillé sur le conducteur, mais qu'on retrouvera probablement en début d'émission puisque c'est toujours en début d'émission qu'on apprend à faire connaissance avec nos invités.
Maintenant j'y vais avec Julien.
Alors on l'a dit, le fil conducteur de cette saison 2020-2021, c'est la filiation. Et vous nous avez expliqué tout au long de votre intervention qu'il y avait des filiations déjà existantes. Hein, par exemple, ce concert symphonique de Mère en Fille avec des gens qui viennent finalement de l'extérieur. Comment ça se passe quand on a une filiation familiale ou musicale, comme par exemple entre Gauthier Dogg et son maître qui l'a formé, ou entre la famille Kantorov? Est-ce que vous avez eu l'occasion justement d'échanger avec les uns et les autres pour savoir comment ils apprécient, comment ils appréhendent peut-être de jouer en famille, réelle ou supposée?
Eh bien, je pense que pour eux, c'est une expérience tout à fait attirante, parfois neuve d'ailleurs. C'est vrai que là, par exemple, notre chef d'orchestre Mélanie Lévy-Thiébaud, qui va donc interpréter une œuvre de sa mère Graziane Finzi et qui va accompagner sa propre fille. Donc là, on a les trois générations réunies sur la scène. Elles n'ont jamais eu l'occasion, effectivement, d'être rassemblées toutes trois. Et donc, je crois qu'elles se réjouissent avant de cette opportunité. Et pour elles, ce sera une première. Bon, pour les deux Kantorov, ça n'est pas une première. Donc, ils ont déjà vécu l'expérience. Mais évidemment, il y a, je dirais, une osmose qui se fait naturellement. Et bon, voilà, un échange qui est tellement intense que forcément, ça n'est que du bonheur pour eux.
J'entends le mot intense, je pense que c'est le mot qui résumera cette saison à venir entre ce magnifique programme anniversaire de la naissance de Beethoven, ces moments atypiques aussi qui vont permettre de sortir du registre pur et dur de la musique classique, une saison intense finalement.
Oui, c'est vrai que bon, nous sommes tous passionnés, donc on peut pas concevoir justement un programme qui ne nous plairait pas, je dirais à 100%. Donc voilà, mais là c'était une thématique qui effectivement est réjouissante et que nous avons hâte effectivement de pouvoir partager avec nos auditeurs.
Alors vous nous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un projet pour cette saison, c'est cette captation justement autour de l'œuvre de Vismer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte et puis surtout quel est un petit peu le planning autour de tout ceci, parce que il n'y a pas que l'enregistrement, il y a aussi toute la phase de production du CD qui sera à réaliser.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est un petit peu différent dans le sens où nous avons été pressentis comme prestataires. Ça n'est pas nous qui éditons le CD. Donc, il sera chez le label Claves. Et le disque, donc, sera enregistré suite à notre concert du 13 octobre, dans les jours qui suivent. Et nous allons d'ailleurs également donc enregistrer une œuvre qui ne sera pas donnée le soir du concert, qui est le concerto pour clarinette de Pierre Vismer, avec un très grand clarinettiste français qui est Paul Meyer, qui nous rejoindra pour l'occasion. Et le projet est donc venu de l'action musicale Pierre Vismer, dont je parlais tout à l'heure, qui donc a lancé l'enregistrement de tout le catalogue, la Pierre Vismer, avec beaucoup d'orchestres étrangers. Et ils étaient ravis, là, de trouver un orchestre français qui se joigne donc à cette série de discographiques. Donc voilà, nous allons enregistrer pendant les vacances de la Toussaint. Et ensuite, donc là, c'est l'ingé son qui va travailler, évidemment, pour mixer cela. Et puis après, là, je perds un petit peu le fil, puisque là, nous ne sommes pas éditeurs. Donc là, après, c'est le label Claves qui va travailler. Et je pense, donc, pour une sortie qui est prévue courant 21. Donc, je pense au printemps 21. Et pour nous, bah, c'est une très, très belle opportunité, puisque vous savez que les budgets discographiques sont toujours très, très lourds et qu'on ne peut pas se permettre, justement, nous, de supporter toute la partie qui n'est pas artistique. Donc là, c'était évidemment une très, très belle opportunité. Et je vais lancer donc peut-être la saison 21-22 en disant que nous avons là un projet de saison phare, puisque j'anticipe, hein, vous me permettez, donc l'orchestre fêtera son 50e anniversaire dans la saison 21-22. Et voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse comme ça.
Je compte sur vous évidemment pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on vienne en parler la saison prochaine.
Voilà, alors il nous reste. Il faudra prévoir au moins deux émissions, parce que une ce sera pas suffisant.
Et tellement on prendra rendez-vous. Il n'y a aucun souci, Emmanuel Rass, et peut-être même qu'on aura d'autres idées, d'autres projets à réfléchir d'ici la date de la saison prochaine. Alors il nous reste moins de 5 minutes, et la question qui va suivre, il faudrait là aussi peut-être deux émissions pour y répondre, mais c'est une question que je ne vous ai jamais posée depuis les quelques années que je vous reçois. J'aimerais savoir quel est le rôle d'une directrice d'orchestre au quotidien.
Ouh là là, alors il est multiple, je dirais. Il est multiple, d'autant que nous avons une petite équipe administrative. Nous sommes 5, dont le régisseur compris. Donc vous voyez, c'est... Voilà, donc forcément, je fais beaucoup de choses. Je fais la programmation avec Jacques Kantorov, évidemment. Nous y réfléchissons ensemble. Voilà, donc là, il y a un travail à... artistique de composition de programme. Ensuite, évidemment, d'aller choisir les artistes, de les contacter, ce qui n'est pas toujours simple. Mais bon, voilà, on s'y prend évidemment bien, bien à l'avance. Ensuite, c'est un rôle de gestion, parce que je n'ai pas d'administrateur. Donc là, c'est la partie qui est la moins réjouissante, je dois dire. C'est évidemment les points financiers, les prévisions, les budgets. Bon, mais ça, c'est incontournable. Et puis après, eh bien, c'est d'animer la vie de cet orchestre. Mais voilà, je me base sur une équipe administrative et sur une équipe artistique absolument fabuleuse. Nous avons des musiciens qui sont extraordinaires parce que ils ne sont pas justement fermés dans une formation permanente qui fait qu'il y a une routine qui s'installe. Ce sont des musiciens qui sont donc sollicités à chaque programme et voilà, et qui viennent parce qu'ils ont une envie absolument une envie irrépressible de jouer ensemble. Et voilà, ils ont une mentalité qui est exceptionnelle. Et j'en ai tout à fait conscience. Et c'est comme ça que cet orchestre a pu vivre durant ses 50 ans, malgré un budget, je le disais, très, très limité. Eh bien, c'est parce qu'il y a une ambiance dans cet orchestre absolument extraordinaire. Et c'est ce que le public ressent, tant le public jeune que le public adulte. Parce qu'il y a, voilà, cette volonté de faire toujours mieux, de se donner, de partager. Et bon, voilà, je peux m'appuyer voilà sur une équipe absolument extraordinaire pour réaliser cette programmation.
Alors c'était pas forcément voulu, mais finalement il y a un lien entre ce que vous me dites et la thématique de cette saison. Finalement c'est une ambiance un peu familiale, tout le monde se serre les coudes.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et les musiciens se connaissent tous, ont des relations autres que des relations professionnelles, des relations amicales. Et bon voilà, parce qu'il faut certes qu'il y ait un son d'orchestre, et là c'est absolument technique, mais il faut qu'il y ait une envie très forte de se fondre pour obtenir justement cette cohésion. Et voilà, on fait souvent la comparaison avec une équipe de foot. Quand il y a X individualités très très performantes, mais qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe, on ne peut pas obtenir un jeu fabuleux. Et bien là, c'est la même chose. Et nous avons cette cohésion, cette envie et ce regard qui va dans la même direction. Et c'est ce que Jean-Jacques Antoroff apprécie quand il vient faire travailler l'orchestre. Il me dit « je ressens une écoute telle que voilà, c'est vraiment important ».
Eh bien, il faut aussi se faire sa propre idée et accompagner et soutenir l'orchestre de Douai Région Hauts-de-France en allant voir les différents programmes que l'on vous a présentés. Premier programme dans quelques jours, le 13 octobre, autour de la guitare de l'Espagne à la Suisse. Dernier programme courant avril, la première quinzaine d'avril, du 10 au 16 avril pour être précis, autour de la harpe, cette fois-ci avec un concert symphonique intitulé « De mère en fille ». Et puis tout le programme, vous le retrouvez bien sûr sur le site internet orchestre-douai.fr. Merci beaucoup Emmanuel Rest d'avoir été notre invité en ce mercredi. On vous souhaite évidemment la meilleure des saisons dans ce contexte, on le rappelle malheureusement, toujours particulier. Mais encore une fois, merci d'être venu nous présenter cette saison et merci de faire vivre la musique classique dans notre région.
Merci Julien.
À suivre sur Radio Plus, c'est Tea Time et là on va changer d'univers musical puisque Bernard et son équipe reçoivent la rappeuse bruxelloise Slow Danger. Nous on se retrouve la semaine prochaine à partir de 15h avec le groupe Esplanades. Ciao, bye bye. Artisan.